Le pari d'une union harmonieuse entre l'art de la chanson et l'art de la piste. Retrouvez le cirque national Alexis Grus dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
France Inter, la différence.
Il est 15h04, c'est là-bas si j'y suis à présent avec Daniel Mermet.
Salut toute l'équipe, salut les AMG Didier de Gaillac. Un petit poème à l'usage des preneurs de billets dans les commissions. C'est en temps et en heure que le bruit et l'odeur des rétro-commissions plombent la présidence, rattrapant les escrocs, mettant en évidence les pratiques des grands et de leurs serviteurs. Ancien Premier ministre et pompeuse excellence, suivi de son imbu, sorte de fou du roi, il pensait, c'est normal, pouvoir mettre les doigts dans la caisse à billets, la corne d'abondance, cet énorme tuyau qui distribue sans fin la manne des contrats négociés à couvert, en remplissant les caisses jusqu'à la jugulaire des filous des partis et de leurs aigrefins. Un ancien président, avec son secrétaire, dont on sait la droiture, la haute intégrité, sous couvert de morale, décide de couper le robinet à fric de ses deux adversaires. Hélas, à Karachi, quand ça traîne un peu trop, et que n'arrivent pas les pots de vin promis, on force un peu la main de ses anciens amis. Et sautent les écoles, les bus et les métros. Voilà comment se soldent dans ce monde d'affaires les mafieuses intrigues d'un capital puissant qui, méprisant les peuples, rabaisse à leur rang les hommes politiques en bonnes à tout faire. Elle serait croustillante, l'histoire de ces gens qui s'insultent et se mordent pour un bout de pouvoir. Elle serait délectable si elle donnait à voir un combat de malfrats qui finit dans le sang. Salut à tous.
Bonjour, c'est Didymix, enfin Didymix, c'est mon nom de scène. Jeudi soir, donc on m'appelle entre deux collages d'affiches, et là le type me dit « Bonjour, je vous appelle suite à votre passage chez Mermet ». Alors moi je réponds « Bah, je suis passé chez Mermet, ok ». Bah, enfin bref, j'ai appris que ma chanson « Le petit actionnaire » était passée dans l'émission, et bah, du coup je vous remercie beaucoup. J'ai absolument aucune idée de comment vous êtes tombé sur un morceau d'un obscur musicien bordelais autoproduit qui a du mal à avoir plus de 20 personnes dans son public. Mais je trouve ça beau quand même de se dire qu'à la radio de service public, il y a encore des gens qui découvrent et qui mettent en avant par eux-mêmes des musicos sans attendre la dernière livraison de clones par les majors. Ben, encore merci et longue vie à la base si j'y suis.
Salut les AMG, le repère de Briouze dans l'Orne se tiendra le mercredi 24 novembre à 17h au bar tabac Le Brazza, 22 rue du Docteur Petit, le mercredi 24 à 17h au Brazza à Briouze. Salut.
Salut Daniel, c'est François. Bah écoute, ce matin on se trouvait à la salle des fêtes de Mondeville en Normandie, près de Caen, puisque les anciens de chez Moulinex, après 10 ans de bataille, ils ont réussi à récolter des indemnités. Donc on est allé là-bas puisque maintenant c'était quelques temps qu'on suit les Moulinex. Et puis à la fin de leur intervention, ils ont salué les salariés de Pistorol à Lisieux, donc à une quarantaine de bornes de Caen, en disant que ils espéraient que eux aussi se battraient. Donc bon, on a décidé de venir à Lisieux pour voir un peu qu'est-ce que c'était que Pistorol. Là on est devant le site, qui est un site énorme en bordure avec une croix installée devant l'entrée du site, puisque c'est une ville vachement catho, Lisieux, avec Sainte-Thérèse de Lisieux. Donc il y a une grande croix installée devant l'entrée, il y a marqué usine occupée, 151 salariés virés comme des chiens. Et à l'intérieur, il y a même une personne qui s'appelle Gisèle, qui fait grève de la faim depuis le 16 novembre pour réussir à avoir un petit peu de sous, juste une partie du salaire de verser en novembre, de manière à pouvoir acheter des cadeaux à Noël. Donc c'est un peu la routine d'une industrie qui fout le camp. Ici, on fabriquait d'abord des boîtes de camembert au début du XXe siècle, puis ensuite des plaques de contreplaqué. L'usine a été reprise par les Portugais, les Chinois, des Libanais, Pinot, tout le monde est un peu passé dans la boutique. Bah, à l'arrivée, ce qui intéresse tous les entrepreneurs, c'est moins l'entreprise que les 600 000 hectares de forêt exploitables au Gabon. Donc en gros, les salariés sont liquidés en France pendant qu'on exploite les hectares de forêt au Gabon. Voilà, bon bah salut Daniel et on continue sur notre route de la désindustrialisation jusqu'à Amiens. Ciao.
Daniel, bonjour, les AMG, bonjour. Aujourd'hui à Aubagne, on enterre un jeune de 26 ans, Julien, qui laisse une femme et deux petits orphelins. Dans cette vie difficile et ignoble parfois, nous venons d'assister à une démonstration de générosité dans un quartier où le travail se fait rare, où la démerde est souvent de rigueur. autour de sa maman Annie et de ses frères et sœurs et s'accompagne un petit nid s'est formé et tout le monde apporte son brin de vie pour solidifier ce nid. Même les pharmaciens du quartier sont de la partie. C'est émouvant jusqu'aux larmes. Des gens qui n'ont presque rien donnent tout ce qu'ils peuvent et pendant ce temps, Liliane Bettencourt donne des sols à 100 euros à manger à ses chiens. Putain de vie, mais quand comprendront-ils ce que le mot générosité veut dire? Courage à tous, on les aura. C'était Jean-Marie à Toulon.
Bonjour, Ludo de Tours. Pour vous inviter tous au Café Repère, au Serpent Volant, mercredi prochain à 19h30. Alors si vous avez des amis de droite convaincus, ou si vous connaissez des néolibéraux actifs, et ils seront les bienvenus aussi pour partager nos différences. À bientôt.
Bonjour, Daniel Mermet. Je viens d'entendre le décès du plus grand opposant au roi Hassan II, Abraham Sarfati. J'en ai pleuré. Si vous pouviez faire un petit topo sur sa vie, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il est devenu jusqu'à sa mort. Voilà, c'est tout. Au revoir.
Aujourd'hui, 19 novembre 2010, Abraham Serfati a été inhumé ce matin à Casablanca, célèbre opposant au roi Hassan II, roi du Maroc, grand militant, grand résistant, longtemps exilé en France. Voilà, ce petit message juste pour qu'on ne l'oublie pas, ni Christine, son épouse, qui a fait connaître au monde le sort des prisonniers dans les geôles marocaines. Je crois que tu avais consacré, il y a quelques années, une émission à Abraham ainsi qu'à Christine.
Hommage à Abraham Serfati, en effet, on l'avait rencontré il y a bien des années, une quinzaine d'années peut-être à peu près, mais je me souviens d'émissions que nous avions faites avec Christine Serfati, son épouse, qui luttait pour sa libération. Il fut libéré, on l'avait rencontré, et je me permets de vous inciter à voir qui il fut, ses idées, son engagement. C'était un bonhomme tout à fait extraordinaire qu'Abraham Serfati. Je vous parle depuis Lubumbashi au Katanga, une des provinces de la République démocratique du Congo, une province grande comme la France, peuplée de 10 millions d'habitants et qui fut un des grands pôles de la colonisation belge à cause des minerais, à cause du cuivre, à cause du cobalt. Et c'est toujours le cas. Il n'y a plus de Belges ici ou de colonisation belge, mais le cobalt et le cuivre et les minerais continuent d'autres minerais comme l'uranium, dont il va être largement question dans les mois qui viennent entre la France et le Katanga. Ces minerais sont à la fois l'identité de ce Katanga et bien souvent son malheur. Aujourd'hui, dans la base, j'y suis, on reçoit Alain Grèche, rédacteur en chef du Monde diplomatique, que vous connaissez bien, et qui publie un bouquin sur la Palestine. De quoi la Palestine est-elle le nom? Auparavant, encore plus de messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, j'y suis. Notez bien le numéro 01 56 40 37 37.
Le repère de Cambrai vous attend le 23 novembre au Garage Café, rue de Prémille, à 20h. À l'ordre du jour, le texte de Chomsky sur les 10 stratégies de manipulation des masses. C'est toujours d'actualité. Bonne journée à tous.
Daniel et équipe, bonjour Aloïs de Nice. Merci d'avoir relayé nos appels précédents sur le squat des demandeurs d'asile, 1 boulevard Clemenceau à Nice. Des citoyens ont amené des aides maternelles après t'avoir entendu. Ça continue. La jeune niçoise brûle. Nous avons hérité de M. Gavory, sous-préfet, qui est le fameux liquidateur de la jungle de Calais. Il continue sur sa lancée. Ce matin, 19 novembre, à l'heure du laitier, une trentaine de flics, sans mandat ni administratif ni judiciaire, ont défoncé les portes, neutralisé les responsables associatifs, vérifié les identités et embarqué une deuxième dame tchétchène avec deux adolescentes terrorisées. Où est-on ? Bon, Daniel, explique-moi, qu'est-ce que ça veut dire les forces de l'ordre? Enseignant de droit, je n'y comprends plus rien.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis.
Flight number 2, arriving from New York.
Alain Grège, on va tout de suite commencer par une question autour de cette question. De quoi la Palestine est-elle le nom ? C'est le titre du bouquin. Mais pourquoi est-ce que ce thème de la Palestine, d'Israël, est-il un thème aussi important ? Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui, depuis si longtemps, nous mobilise et nous captive à ce point ? Après tout, c'est un conflit, d'accord, mais enfin, il y en a de plus sanglants, il y en a de plus dramatiques, et il y a des enjeux, sans doute, autour de celui-ci, mais pourquoi est-ce que ça nous captive à ce point ? Parce que là, on va parler d'Israël et Palestine, il y a tout de suite un soupçon. J'entends déjà des voix qui disent « Encore, ils vont parler de ça obsessionnellement ».
Bon, on peut avancer plusieurs arguments. D'abord, c'est le conflit le plus long que l'on connaisse aujourd'hui. Il date depuis plus d'un siècle. Il a été à l'origine de plusieurs guerres, y compris des guerres qui ont failli mettre face à face l'Union soviétique et les États-Unis. Il touche une terre qui a une dimension religieuse, qui est la Terre Sainte, avec ce qu'elle représente pour les trois religions. Il y a tous ces éléments qui comptent, mais vous avez raison. Il n'y a pas tellement de morts si on compare à d'autres conflits. Ce n'est même plus une région stratégique. Il n'y a pas de pétrole. Et pourtant, ça mobilise. Et je pense que ça mobilise aujourd'hui particulièrement parce que c'est un conflit qui est sur la ligne de faille entre Orient et Occident, entre le Nord et le Sud. Et que c'est, disons, d'une certaine manière, le dernier vestige du colonialisme. Et donc, c'est un conflit colonial. Et que c'est tout ça qui est mis en marche aujourd'hui.
Alors, parce que c'est ça. Tout le bouquin, au fond, tourne autour de la question que posait Maxime Rodinson dans un fameux numéro des Temps modernes de 1967, qui a été publié juste avant la guerre des Six Jours. Et Maxime Rodinson posait la question « Israël, un fait colonial ? Est-ce qu'il s'agit d'un fait colonial ou non ?» Et là, vous partez au fond du colonialisme, de toute l'histoire du colonialisme, des justifications idéologiques du colonialisme. Vous nous rappelez que le colonialisme a été soutenu par des penseurs, des gens des Lumières et des gens tout à fait fréquentables. Et vous dites, mais ça, c'est en train de finir. C'est-à-dire l'épisode colonial, enfin de la décolonisation, mais c'est la même histoire, est en train de finir avec l'apparition de nouvelles puissances économiques, militaires, politiques, etc., qui sont la Chine, l'Inde, le Brésil, etc.
Oui, il y a une histoire du monde qui a été marquée depuis, en gros, le début du 19e siècle par cette aventure coloniale. Et vous avez raison de souligner qu'aujourd'hui, ça a une connotation très négative, le colonialisme, mais ça ne l'avait pas du tout. J'irai même plus loin. Édouard Saïd dit à un moment, on ne peut pas imaginer l'aventure coloniale, sans le sacrifice de milliers de gens qui ont été là-bas avec l'idée qu'il fallait civiliser, qu'il fallait éduquer, qu'il fallait soigner,
la mission civilisatrice,
etc. Il y avait vraiment l'idée d'une mission civilisatrice. Et le mouvement sioniste s'inscrit tout à fait naturellement dans cette vision. Et à l'époque, il s'en revendique. C'est-à-dire qu'il s'agit de coloniser un territoire qu'il considère comme historiquement lui appartenant, c'est-à-dire la Palestine, qui aurait été donnée au peuple juif, sur laquelle il faut s'installer. Mais Herzl, le fondateur du sionisme, dit tout à fait que l'État juif qu'il veut sera l'avant-garde contre la barbarie asiatique. Et donc ça, c'est tout à fait accepté. Aujourd'hui, évidemment, plus personne n'oserait tenir un tel langage. Mais c'est important de rappeler que ça a été un des éléments moteurs de ce mouvement. Et en plus, si vous voulez, quand on parle du colonialisme, on peut dire qu'il y a deux types de colonialisme. Il y a un colonialisme de conquête et de contrôle par l'extérieur, d'une certaine manière. Si vous prenez les Britanniques en Inde, avec quelques milliers de soldats et de fonctionnaires, ils tiennent le pays. Et puis, il y a un colonialisme de peuplement, celui qu'on va voir en Algérie, en Afrique australe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, où il s'agit de conquérir le territoire, de conquérir la terre surtout, et d'expulser, voire d'exterminer les populations locales.
Donc Israël est un fait colonial. La réponse que vous donnez, la réponse à la question que Rodinson posait, mais on voit bien que la réponse était dans sa question, le connaissant un peu, mais la réponse que vous faites, c'est Israël est un fait colonial.
C'est un fait colonial avec une dimension spécifique sur laquelle je reviens relativement longuement, c'est la question juive et la tentative de trouver une solution à cette question juive que le mouvement sioniste prétend qu'il trouve une solution. Donc il y a une dimension qui est particulière, je veux dire. On voit bien d'ailleurs dans les débats autour d'Israël-Palestine à quel point rapidement on vient, dès qu'on commence à débattre de ça, de la question du génocide, de la question de l'antisémitisme, etc. Donc c'est un élément aussi. Mais ce qui est important de rappeler, c'est comment ce mouvement sioniste s'inscrit totalement dans cette aventure coloniale qui marque le 19e et pratiquement la première moitié du 20e siècle.
Alors ce qui revient à dire que quand on dit le conflit israélo-palestinien, cette formule qui revient tout le temps, elle suppose deux forces égales, un bras de fer, enfin tous ces mots sont employés, reviennent tout le temps dans les commentaires et dans le regard qu'on a. Pour vous, c'est non. Il y a un territoire occupé, il n'y a pas deux forces égales, il y a un territoire occupé, il y a un occupé, il y a un occupant.
Oui, je ferai deux remarques à propos de ça. Il y a une forme, j'ai parlé de colonialisme de peuplement, on a connu deux types de colonialisme de peuplement. Celui qui a abouti à l'extermination des populations locales, c'est le cas de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, et à l'issue, je dirais, de la décolonisation, c'est toujours les mêmes populations qui dominent. Et puis, là où les populations locales sont restées très largement majoritaires, comme l'Algérie, l'Afrique australe, qu'elle soit anglophone ou portugaise, et où, dans le cadre des luttes pour l'indépendance, on est revenu à la loi de la majorité. La Palestine est un cas intermédiaire, c'est-à-dire que si vous prenez le territoire historique de la Palestine, c'est-à-dire le territoire qui a été contrôlé par les Britanniques entre la Première Guerre mondiale et la proclamation de l'État d'Israël, il y a aujourd'hui grosso modo ce qui crée une situation particulière, c'est-à-dire que d'une certaine manière en Algérie vous pouviez envisager de créer l'Algérie avec le départ des pieds noirs, je veux dire, on n'est pas dans cette situation, évidemment, en Israël-Palestine. Donc, il y a un problème démographique, de rapport de force démographique. Mais l'autre aspect, mais qui est plus politique aujourd'hui, quand on entend parler de négociations, quand même, on a l'impression que c'est les Palestiniens et les Israéliens qui négocient de bonne foi à partir des mêmes atouts. Alors que, comme vous dites, il y a un occupant et un occupé, et il y a... Aujourd'hui, l'autorité palestinienne qui négocie, elle n'a aucune carte en main. Elle vit sous occupation et elle vit du bon vouloir des autorités israéliennes.
C'est la foule grave des jours de tension internationale qui accueillait M. Selwyn Lloyd, ministre des Affaires étrangères britannique, et M. Murphy, représentant les États-Unis.
ORTF, 1er août 1956.
M. Pinault les rejoignait à son tour à Downing Street pour examiner les mesures à prendre devant le coup de force accompli par le général Nasser. Le canal de Suez, la route internationale de l'Orient ouverte par Ferdinand de Lesseps, a pris soudain la vedette internationale. Voici à peine deux ans, Nasser et le représentant de la Grande-Bretagne, en signant l'évacuation de Suez, avaient garanti le régime du canal jusqu'au terme du mandat fixé à 1968. Devant une foule en délire comme à chacune de ses apparitions publiques, Nasser a prononcé la nationalisation du canal par une décision unilatérale au mépris de tout droit et de toute légalité. Par ce coup de force qui en rappelle d'autres, Nasser cherche-t-il une issue au dessein des dictateurs ?
Vous commencez par faire appel à votre mémoire, à votre propre histoire. Vous êtes né au Caire, dans une famille, votre mère était juive. Vous avez eu un père copte, c'est ça ?
Oui,
j'oublie
c'est
toujours.
Oui,
c'est-à-dire que vous êtes au milieu de ces trois cultures, c'est-à-dire la culture arabe, la culture copte, c'est-à-dire chrétienne, et la culture juive. Et donc, vous décrivez, vous commencez par décrire cette Égypte de Nasser au moment de la nationalisation du canal.
En même temps, je dirais, la culture dominante que j'ai, c'est la culture française. Ma langue maternelle, c'est le français. Je vais au lycée français, mais avec cet aspect particulier qu'on se sent partie prenante de ce qui se passe en Égypte. La monarchie a été renversée en 1952. En 1956, Nasser nationalise la compagnie du canal de Suez. Donc on vit une période qui est une période révolutionnaire. Et quand je vais arriver en France, en 1962, je vais me rendre compte que cette période que j'ai vécue, à partir de la France, on l'a vu de manière totalement différente. Le peuple égyptien voit Nasser comme un héros qui a récupéré le canal de Suez qui lui appartient. En France, on se souvient, Guy Mollet, le dirigeant socialiste, traitant Nasser de Hitler au petit pied. Et puis, il y a une haine pour l'Égypte, pour Nasser, qui est immense. Et il y a une incompréhension totale de qu'est-ce que c'est la fierté de la libération. C'est qu'est-ce que Nasser exprime comme pour la première fois un Égyptien qui dirige l'Égypte. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. En France, comme je le dis, on étudie la conquête de l'Égypte par Bonaparte, et elle est présentée de manière positive, Bonaparte avec ses savants, et c'est vrai qu'il a fait une description de l'Égypte magnifique, il a apporté des choses. Mais en même temps, ça a été ressenti comme une vraie violation par le peuple égyptien qui s'est révolté, et qui s'est révolté contre des gens qui prétendaient apporter les Lumières. Et évidemment, ils se sont révoltés au nom de ce qui était le plus important pour eux, la religion. Mais ils avaient raison. Ils refusaient une domination étrangère.
Vous placez, vous essayez en tout cas autant que possible, à cause peut-être de cette enfance kérote, de nous dire, attention, on fait quand même, surtout les Occidentaux font quand même de l'ethnocentrisme. Ils pensent que ethnique, c'est pas nous, hein, c'est les autres qui sont ethniques. Et vous nous dites, attention, essayons de voir le Japon de 1941, par exemple, cette extension japonaise terrible et ces véritables nazis de l'Asie qu'ont été les Japonais, oui, mais enfin, ils ont pu être vécus comme des libérateurs. Eux, dans les pays qu'ils ont colonisés, c'était des colonisateurs qui venaient déloger d'autres colonisateurs, pensaient-ils, mais les mouvements anticoloniaux, les mouvements de libération nationale qui étaient embryonnaires ou non, eh ben, étaient tout à fait ravis et ont pu faire des alliances avec les Japonais dans toute cette zone.
Oui, tout à fait. J'ai un chapitre sur justement la manière dont on écrit l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Pour nous, et à juste titre, la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment la lutte entre le bien et le mal, entre la civilisation et la barbarie. Et je pense que c'est une vision vraie. Et en même temps, je donne un certain nombre d'exemples pour montrer comment il était difficile pour un noir en Afrique du Sud de, en 1941, se dire « nous allons nous battre aux côtés du gouvernement sud-africain qui se bat avec les Britanniques et les Soviétiques contre les nazis, alors même que nous sommes opprimés par ce gouvernement sud-africain qui est un gouvernement raciste ». Et j'essaye de comprendre pourquoi un certain nombre de ces peuples qui vivaient sous occupation coloniale française, britannique ou autre, ont eu un moment de sympathie, non pas par sympathie pour l'idéologie des Japonais ou l'idéologie nazie, mais parce que l'idée, c'était qu'ils allaient mettre fin à une domination qui apparaissait comme éternelle. Et ce qui se passe au Japon est intéressant, parce qu'en quelques semaines, l'offensive en 1941, à la suite de Pearl Harbor, l'offensive japonaise contre l'Empire britannique à Singapour, en Malaisie, fait s'effondrer l'Empire britannique et fait apparaître l'homme blanc comme une créature faible. Et c'est accueilli avec un énorme soulagement par les peuples colonisés. Même si après, ils vont se rendre compte que la domination japonaise elle n'est pas meilleure, sinon pire que la domination britannique.
C'est pas une soirée de gala non plus.
Дуделе, били куранты, родина нас провожала в эмигранты. Самолеты, поезда, машины, автобусы разбросали нас в разных точках глобуса. Раз, два, три, четыре, пять. Не ходите нас искать, мы далеко. Нас уже, пожалуй, не догнать. Мы там, где себя не могли представить ранее. Америка, Израиль и Германия. Уезжали, улетали в дальние дали. Переживали, как все будет в начале. Очень осторожно, обойдя таможню в пункте назначения, багаж свой выгружали. Новые места, чужие города, хайвей, бродвей, остальная красота. Пестрая экзотика для нашего глаза рвала крышу сразу.
Alors, ce que vous rappelez, parce qu'on l'oublie trop souvent, c'est l'histoire du sionisme. Aujourd'hui, il y a toutes ces discussions qui sont un petit peu moins vives, peut-être ces temps-ci, mais c'est provisoire, où toute critique du sionisme est amalgamée, enfin pas toujours, mais souvent quand même, à l'antisémitisme. C'est quand même faire fi de l'histoire, et c'est faire fi de l'histoire du sionisme. D'abord, il y a eu plusieurs tendances à l'intérieur du sionisme, mais il y a eu surtout en Europe, dans le monde juif, un refus très longtemps du sionisme, et très longtemps un refus de cette idée de la création d'un État, même si ça pouvait, à la fin du 19e siècle, qui est le siècle des États-nations, apparaître comme, évidemment, comme la solution pour un peuple qui était persécuté. Mais cette idée a semblé vraiment farfelue à beaucoup et a été combattue par certains tout au long de la première moitié du XXe siècle.
Oui, on peut même dire qu'elle a été très minoritaire pendant très longtemps parmi la population juive. Le sionisme naît au XIXe siècle un peu à l'image des mouvements nationalistes qui naissent avant la Première Guerre mondiale dans l'Empire austro-hongrois, dans l'Empire tsariste, c'est-à-dire les Polonais, les Serbes, les Croates, chacun demande un État indépendant. Le mouvement sioniste dit qu'il faut que les Juifs aient un État indépendant, avec simplement le fait que cet État doit être créé en Palestine. Face à cette demande, les oppositions sont multiples. Il y a une opposition des religieux qui pensent qu'on ne peut pas créer un État juif avant le retour du Messie. Il y a, je dirais, l'opposition majoritaire de la population juive qui commence à subir un antisémitisme réel à partir de 1880-1882 avec les premiers pogroms dans la Russie tsariste et qui veulent émigrer. En plus, il y a le poids de la pauvreté, ils veulent émigrer. Et la grande majorité des Juifs, je crois qu'il y en a 1,2 million entre 1880 et 1920, qui choisissent leur terre promise, c'est les États-Unis. Pendant la même période, il va y avoir quelques dizaines de milliers de colons qui vont aller en Palestine. Il y a ensuite les Juifs qui veulent s'intégrer, qui disent « nous sommes Français, nous sommes Allemands, nous ne considérons pas du tout comme une nationalité ». Il y a les Juifs qui participent au mouvement internationaliste, que ce soit socialiste ou communiste, et on sait à quel point dans ces mouvements ils ont joué un rôle important.
Vous pensez au Bund, par exemple.
Et il y a le Bund qui est aussi le grand mouvement des ouvriers d'Europe de l'Est. Donc, quand j'entends dire aujourd'hui « la critique du sionisme, c'est de l'antisémitisme », je veux dire, on est vraiment dans une espèce de négation de l'histoire. On peut penser que le sionisme a raison, mais encore une fois, il a suscité beaucoup, beaucoup d'opposition chez les Juifs et dans le reste des populations. Et ça, c'était normal. C'était un débat qui était considéré comme normal.
Vous citez quand même le prix de ce mouvement sioniste, ce que ça a pu être. Vous citez une déclaration de David Ben-Gourion, l'une des grandes figures du sionisme et de la création de l'État d'Israël, qui le 7 décembre 1938 déclarait, je cite, « Si j'avais su qu'il était possible de sauver tous les enfants juifs d'Allemagne en les transportant en Angleterre, mais seulement la moitié en les transportant en Palestine, j'aurais choisi la seconde solution, parce que nous ne devons pas seulement faire le compte de ces enfants, mais nous devons faire le compte de l'histoire du peuple juif. » C'est violent.
Oui, c'est très violent. Mais vous savez, le journaliste et historien israélien Tom Segev a écrit un livre qui s'appelle « Le septième million », qui raconte l'attitude du Yishuv, c'est-à-dire de la communauté juive en Palestine, par rapport aux Juifs de la diaspora et au génocide. Ce n'était pas une préoccupation majeure durant cette période de sauver les Juifs. Et le mouvement sioniste, sa préoccupation majeure, c'était de créer un État. Ce n'était pas que les Juifs puissent se sauver en allant ailleurs. C'est qu'ils viennent en Palestine. D'ailleurs, il y a pendant cette période, entre 1933 et 1939, un accord entre l'organisation sioniste et l'Allemagne hitlérienne pour permettre à une partie de la population juive allemande d'émigrer en Palestine en échange d'un appui financier. Alors, on peut dire d'une certaine manière, et c'est vrai, que ça a sauvé 50 000 juifs allemands qui se sont retrouvés en Palestine et qui n'ont pas été victimes du génocide. En même temps, ça pose une question morale sur l'attitude qu'il fallait avoir, puisque à l'époque, une partie des organisations, y compris des organisations juives, demandait le boycott de l'Allemagne nazie et de l'Allemagne hitlérienne.
Alors, ce que vous évoquez là, en quelques mots, c'est un tabou, évidemment. Il y en a un autre, c'est celui des liens entre certains milieux palestiniens et les nazis. Sur le principe qu'on évoquait tout à l'heure avec le Japon, les ennemis de mes ennemis sont mes alliés.
Je l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre de dirigeants d'organisations nationalistes du tiers-monde ont pensé que l'Allemagne ou le Japon pouvaient être des alliés. Et c'est le cas de notamment Haj Amin el-Husseini, qui était un des dirigeants palestiniens, qui va, lui, porter cette conception au maximum, puisqu'il va aller rencontrer Hitler et il va se prononcer pour la lutte contre la Grande-Bretagne et aux côtés de l'Allemagne nazie. Mais je dirais, il y a eu aussi beaucoup d'Arabes qui ont combattu d'abord dans les armées alliées et beaucoup de mouvements aussi nationalistes arabes qui ont condamné l'Allemagne nazie parce qu'ils savaient très bien effectivement que l'Allemagne nazie ne serait pas mieux que les Britanniques dans le traitement des populations arabes.
Mais enfin, ça aussi, c'est une chose. Vous connaissez très bien les milieux de ceux qui luttent pour la cause palestinienne. C'est un sujet dont on ne parle pas volontiers dans ces milieux.
Écoutez, il y a eu récemment un excellent livre de Gilbert Achkar qui s'appelle « Les Arabes et la Shoah ». qui aborde ces problèmes de manière frontale. Et je pense qu'il faut les aborder de manière frontale. C'est comme la question de... J'ai évoqué l'accord passé entre les organisations sionistes et l'Allemagne nazie. Je veux dire, aujourd'hui, quand on demandait qu'est-ce qu'il fallait faire, franchement, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire, effectivement, on a sauvé 50 000 juifs, c'était pas rien, mais en même temps... On a cautionné un peu l'Allemagne nazie. C'est compliqué, je veux dire. On a l'impression, si vous voulez, des fois, que la politique était simple. Rappelons quand même que, puisqu'on parle de l'Allemagne nazie, qu'entre 1933 et 1941, les États-Unis ont maintenu des rapports avec l'Allemagne nazie, y compris des rapports économiques. On reproche beaucoup aux Soviétiques le pacte avec Hitler, mais encore une fois, les États-Unis ne sont pas en guerre avec l'Allemagne nazie, et c'est l'Allemagne nazie qui, en décembre 1941, déclare la guerre aux États-Unis. On sait ce qu'a été Munich, c'est-à-dire la politique d'apaisement de la France et de la Grande-Bretagne à l'égard de l'Allemagne nazie. Il y a beaucoup, beaucoup de forces qui n'ont pas compris le caractère très particulier de l'Allemagne nazie, que ce n'était pas seulement une puissance méchante, entre guillemets, mais que c'était vraiment un régime qui était capable non seulement de conduire l'humanité à la guerre, mais en même temps de perpétrer des génocides terribles.
Ça s'appelle « De quoi la Palestine est-elle le nom ?» C'est signé Alain Grèche. Et ce n'est pas un gros livre, ça c'est très sympa de votre part de ne pas nous faire du bouquin trop épais, mais ça bouscule toutes les 10 lignes. C'est autant d'idées reçues qui sont bousculées en permanence dans ce bouquin. Sur, par exemple, la place du génocide des Juifs et de la Shoah dans la mémoire. On pense, on dit, ben voilà, bien sûr que ce qui explique et ce qui justifie grandement la création de l'État d'Israël, c'est la destruction des Juifs, d'Europe. Or, c'est pas si évident que ça. C'est pas la raison majeure de la création de cet État. Et vous rappelez qu'en 1948, un des premiers manuels sur l'histoire juive publié en Israël consacrait une seule page sur 220 au génocide contre 10 aux guerres napoléoniennes. C'est Edith Zertal qui rappelle ça dans son bouquin « La nation et la mort ». Place de cette mémoire-là dans la mémoire israélienne et dans la nôtre.
La création de l'État d'Israël en 1948 n'a pas suscité, si vous voulez, entre 1948 et, disons, 1960, la volonté de Ben-Gourion, notamment, qui est le principal dirigeant israélien, c'est de construire une nation juive forte et de donner une image forte de la nation israélienne. Et le rappel du génocide, de ce point de vue, n'est pas quelque chose de très positif. Parce que il y a l'idée à l'époque, les Juifs se sont laissés conduire à l'abattoir, ils n'ont pas résisté, etc., etc. C'est à partir des années 60 qu'on va assister à une renaissance des études sur le génocide des Juifs et une discussion autour de ce génocide. En même temps, quand je dis, il n'y a pas, si vous voulez, en 47, prenons 47, l'Assemblée générale des Nations unies qui vote le partage de la Palestine, vraiment, il y a peu d'États qui ont voté parce qu'il y avait eu le génocide des Juifs. En plus, la prise de conscience de ce qu'était le génocide n'était pas du tout, en 1947, ce qu'elle était aujourd'hui. Il y avait l'idée que les Juifs avaient été massacrés, mais ils avaient été massacrés aux côtés des Tziganes, aux côtés des soldats soviétiques, des Polonais, etc., que c'était un massacre parmi d'autres. Mais il n'occupait pas du tout la place, ce génocide, qu'il occupe aujourd'hui. Donc, il n'a pas joué ce rôle majeur dans la création de l'État d'Israël. Aujourd'hui, il est utilisé pour dire, regardez, les Juifs ont besoin d'un État qui puisse les défendre en cas de... À quoi un rabbin de New York répondait dans les années 80 que peut-être l'endroit où les Juifs étaient le moins en sécurité, c'était l'État d'Israël. Et qu'ils étaient beaucoup plus en sécurité aux États-Unis ou en France qu'en Israël.
Ce qu'on dit là s'illustre parfaitement dans la chanson de Jean Ferrat, « Nuit et brouillard », qui date de... 61-62. Oui. Où on voit de quoi il est question. Il se réfère évidemment au film d'Alain René, Nuit et brouillard. Et il évoque toutes les figures de la résistance, de ceux qui ont des religions différentes, et parmi lesquelles il y a les Juifs. Mais il ne distingue pas ces Juifs de l'ensemble des victimes et des figures.
Il dit, certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu, d'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Et quelqu'un rappelle d'ailleurs, il faut se rappeler, dans les années 50, quand dans les classes on voulait inviter quelqu'un pour témoigner de la barbarie nazie, on voulait un résistant et on ne voulait pas un juif. Ou on ne voulait pas des gens qui avaient été ciblés pour des raisons raciales, parce qu'on pensait que n'ayant pas fait un choix, c'est-à-dire que ça leur était tombé dessus, alors que le résistant avait fait le choix, il avait été déporté pour ça. Aujourd'hui, c'est le contraire. Je veux dire, quand on parle du génocide, pratiquement, on ne parle plus que du génocide des Juifs et on laisse de côté ce qui a été aussi le génocide à la fois des homosexuels, des tziganes, des soviétiques, des polonais, etc.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez en regardant au loin. En regardant dehors, votre chair était tendre à leur chien policier. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez.
Alors, venons-en à votre vision actuelle, à vos utopies aussi actuelles. Mais d'abord à votre vision, je le rappelle. Ce qui rend ce sujet si névralgique et qui captive et qui mobilise, c'est qu'il est un point de fracture, de rencontre entre l'Orient et l'Occident. Il a été ça très longtemps. Mais ce que vous nous dites et ce qu'on découvre actuellement, c'est l'émergence de nouvelles puissances qui sont la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie, etc. Et on assiste à un relatif déclin de l'Occident, pas seulement des États-Unis, pas seulement de l'Union européenne, mais l'Occident au sens géopolitique du terme, ce qui évidemment change la nature de ce conflit israélo-palestinien et qui peut-être, vous allez nous dire ce que vous en pensez, change les chances de paix.
Il change d'abord la vision qu'on a de ce conflit. C'est-à-dire l'émergence de pays comme la Chine ou l'Inde, ou le Brésil, ou l'Afrique du Sud, amène à une réécriture de l'histoire. Aujourd'hui, on voit naître, notamment dans le monde anglo-saxon et dans le tiers-monde, un mouvement qu'on appelle l'histoire globale. C'est-à-dire, si vous voulez, quand vous regardez les manuels scolaires qui nous ont marqués, qui nous ont formés sur le point de l'histoire, c'était 1789, 1848, 1848, 1914, 1914, 1945. C'était pratiquement l'histoire de l'Europe avec quelques éclairages sur qu'est-ce qui se passait ailleurs. Aujourd'hui, cette histoire, elle est remise en cause. Elle ne peut plus être présentée de cette manière simpliste en mettant de côté ce qui s'est passé dans, il faut le dire, les 4/5 de l'humanité, qui n'était pas l'Occident. Je veux dire, j'ai parlé tout à l'heure de la Chine, des mouvements en Asie, de lutte contre le colonialisme, en Afrique, etc. Donc, tout ça, ça amène un changement important et donc une relecture de cette histoire, de l'histoire mondiale. L'autre aspect, c'est que d'une certaine manière, pour la question palestinienne aujourd'hui, la solution, doit émerger de manière différente. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où ce n'est plus seulement l'Occident qui dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui a raison, qu'est-ce qui a tort, mais il y a aussi d'autres puissances. Et aussi, peut-être qu'il faut... Oui. Je disais que c'était le dernier exemple de conflit colonial, mais il y a plusieurs manières de sortir des conflits coloniaux. Et l'Afrique du Sud a montré une voie qui était peut-être plus intéressante à la fois pour les populations colonisées et puis pour les ex ou les descendants de colons, une voie plus intéressante, c'est-à-dire une voie où ce n'est pas eux ou nous, mais c'est eux et nous ensemble pour essayer de construire quelque chose de nouveau et pour essayer de sortir de cette inégalité qui marque la question coloniale. Parce que je dis, une des choses importantes dans l'impasse actuelle, c'est que les Israéliens ne reconnaissent pas les Palestiniens comme des égaux. Et que ça... Il faudra faire cette révolution, je dirais presque psychologique, pour pouvoir arriver à une solution.
Mais alors, pour ça, il faudrait qu'Israël, peut-être, cesse d'être la figure de l'Occident dans la région.
Oui, sans doute. Mais je dirais, avant de cesser d'être la figure de l'Occident dans la région, il faudra qu'Israël accepte de considérer déjà ses propres citoyens arabes, ce qu'on appelle la minorité des Arabes israéliens, c'est-à-dire 1,5 million ou 1,2 million personnes, comme des citoyens égaux, ayant les mêmes droits. Et considère les Palestiniens qui vivent sur ce territoire historique de la Palestine comme des égaux. Et qu'à partir de là, on peut construire quelque chose. Mais tant qu'on sera dans une situation où, comme je dis, la sécurité d'un Israélien est plus importante que la vie d'un Palestinien, on sera dans une situation d'inégalité totale qui ne peut déboucher que sur des confrontations.
Alors, dans ce bouquin, vous n'en parlez pas, mais dans le monde diplomatique, vous parlez d'un aspect relativement nouveau de la tension Israël-Palestine, qui est que les faucons israéliens actuellement, la droite israélienne, trouvent que finalement, un seul et même État, ça pourrait être la solution. C'est-à-dire le vieux rêve d'Edward Saïd et d'un certain nombre de ses amis, et de ce courant, l'État binational. Tout d'un coup, c'est plus une bande de gauchistes ultra allumés et antisémites. Ça devient... l'idée, une sorte d'évidence qui serait celle-ci d'un État avec les deux peuples ensemble.
Oui, tout à fait. C'est une
ça
thèse
tout à fait utopique.
Oui, mais ça a été avancé. Ce qui est intéressant, c'est une thèse qui est ancienne, comme vous dites, a été avancée par des intellectuels comme Edward Said, Tony Judt ou d'autres. Mais là, ce qui est nouveau, c'est que quelqu'un comme Moshe Arendt, un ancien ministre de la Défense et des Affaires étrangères, du Likoud, plutôt un faucon, que le président du Parlement israélien, se fasse d'une certaine manière, alors les propagandistes de cette thèse, c'est-à-dire disant il faut annexer la Cisjordanie et donner le droit de vote aux Palestiniens, en disant mais l'État restera quand même un État juif. Ce qui est quand même quelque part contradictoire, parce que qu'est-ce qui va faire qu'on va maintenir les Palestiniens? Si on veut que ça reste un État juif, il faudra maintenir les Palestiniens au-dessous de 30 ou 40 ou 45% de la population. Mais c'est intéressant parce que ça indique la crise dans laquelle est le processus politique aujourd'hui de paix. C'est-à-dire, tout le monde négocie sur l'idée de la création des deux États. Tout le monde est d'accord, en principe. C'est-à-dire, jamais il y a eu une telle unanimité sur la solution. C'est un État palestinien à côté de l'État d'Israël. Et en même temps, sur le terrain, ça devient de plus en plus difficile parce que non seulement il y a 500 000 de colons entre la Cisjordanie et Jérusalem-Est, ce qui est énorme, mais ces colonies contrôlent 40% du territoire de la Cisjordanie et qu'il y a un réseau de routes, de camps militaires qui fait que un État contigu palestinien apparaît irréalisable. Donc, il faut bien trouver une solution. Alors, il y a une partie de la droite israélienne qui est pour l'expulsion des Palestiniens ou pour le fait de les pousser. Et je rappelle dans le livre que ça a toujours été une caractéristique du colonialisme de pousser dehors les populations colonisées. C'est-à-dire de les pousser, soit de les expulser, soit de les pousser en les privant de terre, etc. Quelqu'un comme Avigdor Lieberman, le ministre des Affaires étrangères israélien, c'est un faucon, mais c'est un faucon qui est au gouvernement, qui fait ses propositions de transfert de population. Donc il y a ces gens qui proposent ça, mais pour ceux qui pensent qu'on ne peut pas construire un avenir sur l'oppression et l'expulsion d'une partie des populations, cette solution de l'État apparaît comme à la fois très utopique, parce que les haines sont telles qu'aujourd'hui on ne peut pas construire cette solution, mais en même temps comme peut-être plus réaliste qu'une solution de deux États.
Enfin, les haines sont telles, elles semblaient sans fin en 1945 entre les Français et les Allemands. On a vu qu'assez rapidement, une certaine entente a pu s'installer et un oubli prendre toute sa place.
Non, mais vous avez raison. J'ai peut-être eu tort de dire, parce qu'effectivement, moi, je ne crois pas au haine éternelle ou au fait qu'on ne peut jamais surmonter le poids de l'histoire. On parle beaucoup de la mémoire. Je pense que de temps en temps, il faut aussi parler de l'oubli, de la nécessité d'oublier si on veut construire l'avenir. Donc, on peut arriver à quelque chose, mais sur une base, c'est Édouard Saïd qui le disait, l'égalité ou rien. C'est-à-dire où on est sur l'égalité entre Palestiniens et Israéliens, et à ce moment, on imagine qu'est-ce qu'on peut construire ensemble, ou bien on est sur une situation inégalitaire, et à ce moment, on sera dans les affrontements permanents. مين إرهابي أنا إرهابي كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي مين إرهابي أنت إرهابي مكلني وأنا عايش ببلادي قتلني زي ما تلت إجدادي أجل الخنون عن فاضي ما أنت يا عدو بتلعب دور الشاهد المحامي والقاضي علي قاضي نهايتي بادي حلمك انقل فوق معنى آلية حلمك لآلية تصير بالمقابر أخطرية ديمقراطية والله انكم ناسية من كثر ما اغتصبتوا النفس العربية حبلت ولدت ولد اسمه عملية انفجارية وهنا ديتنا ارهابية يعني ضربتني وبكيت سبعتني واشتكيت لما ذكرتك انك بديت نطيت وحكيت ما انتو بتخلوا ولاد صغار المحجار ما لهمش اهل يدبوهم بالدار ايش كنو نسيت انو استحق ضب الاهل تحت الحجار وعلى لما وجع الفار بتناديني ارهابي مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش ببلادي مين ارهابي انت ارهابي ما كلني وانا عايش ببلادي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي انت ارهابي.
Ce qui rend difficile la compréhension de ce qui se passe au Proche-Orient, Israël et Palestine, c'est la grande sensibilité d'une partie de la population chez nous à ces sujets. C'est tout le côté à la fois traumatique et irrationnel qui entoure ce sujet. Mais ce qui rend aussi difficile les choses, c'est une certaine responsabilité ou irresponsabilité d'un certain nombre d'intellectuels français qui sont qualifiés, pense-t-il, et pense-t-on, pour parler de cela. Il y a quelques années, Edgar Morin avait publié un papier dans le quotidien Le Monde, où il parlait d'Israël-Palestine en considérant qu'il s'agissait d'un cancer avec des métastases. Parce que ça, c'était évidemment, c'est un aspect important des choses, que ce conflit qui ne trouve pas de solution sert de référence à d'autres conflits et maintient d'autres conflits, aggrave d'autres conflits. Je pense à l'Irak, je pense à l'Afghanistan, et jusqu'effectivement dans, peut-être dans nos banlieues sensibles et les quartiers sensibles chez nous. Voilà ce que Edgar Morin appelait les métastases. Ce qui lui avait valu un procès, des poursuites, qu'il avait perdu. Edgar Morin, dans un premier temps, avait été condamné pour incitation à la haine raciale. En appel, il a été relaxé, mais ça dit assez bien la force et l'irrationalité complète de ce conflit. Et vous finissez votre bouquin, ça commence à la page 195, où vous faites un constat, où l'on constate que Bernard-Henri Lévy n'est pas Victor Hugo. Vous citez Victor Hugo, malheur à qui resterait impartial devant les plaies saignantes de la liberté, et vous détaillez et vous faites une dissection, comment dire, d'un article fameux de Bernard-Henri Lévy.
Oui, je fais une petite parenthèse sur cette citation de Victor Hugo, parce que Victor Hugo parle du coup d'État de Napoléon le Petit en 1851 et la manière dont ce coup d'État a été réprimé. Je rappelle qu'à l'époque, les barricades, on les construisait dans les villes. Et que personne ne disait, regardez, ces insurgés, ils prennent la population en otage, comme Bernard-Henri Lévy va le dire pour Gaza. Et donc là, ça me semble être quelque chose d'important, c'est-à-dire de considérer que les intellectuels ont leur place du côté des gens qui sont opprimés, des gens qui se révoltent pour résister contre toutes les oppressions. Ça ne veut pas dire que ces gens sont par nature bien ou qu'ils ne commettent aucun crime.
Vertueux, oui.
Mais il y a quelque chose d'important de dire nous sommes du côté des opprimés. Or, Bernard-Henri Lévy, depuis le début, dit il est du côté de l'armée israélienne. Il a quand même, la veille de l'assaut contre la flottille de la paix qui a fait 9 morts, il faisait une conférence à Jérusalem où il expliquait que c'était l'armée la plus morale du monde. Mmh. On sait aujourd'hui que dans la guerre de 1947-1949, cette armée israélienne a commis des crimes de guerre, massacré des populations, fait des viols collectifs, fusillé des gens, etc. Je veux dire, c'est une chose documentée. On peut dire toutes les armées le font, etc. Mais on ne peut pas dire qu'ils ne l'ont pas fait. C'est d'ailleurs un certain nombre d'historiens israéliens qui ont confirmé ces faits. Et pourtant, M. Bernard-Henri Lévy fait comme si ces faits n'existaient pas. Vous savez, il n'y a pas de guerre propre. Les guerres d'oppression menées, que ce soit par l'armée israélienne ou par l'armée française en Algérie, sont des guerres qui sont des guerres sales. Et il n'y a pas d'armée morale dans ce cas, parce que la politique menée est une politique immorale.
Ça fait 40 ans que vous vous intéressez, vous passionnez, comme vous le faites là, sur ce sujet.
Oui, c'est ça, à peu près. Ouais. Mais peut-être parce que, effectivement, le fait que je sois né en Égypte m'a sensibilisé au Proche-Orient et à ce conflit palestinien.
Vous croyez que vous verrez la paix un jour ?
Écoutez, j'essaye d'être optimiste, c'est-à-dire de penser qu'il faut trouver des solutions. Je veux dire que c'est conforme, d'abord, réellement, je pense que c'est conforme aux intérêts des Palestiniens et des Israéliens de trouver une solution. C'est conforme aussi aux intérêts de toute la région. C'est-à-dire, même si le conflit israélo-palestinien n'est pas le seul conflit, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'était même pas le conflit le plus important, il est perçu comme, dans la région, au Proche-Orient, comme le symbole du deux poids, deux mesures de l'Occident. C'est-à-dire le fait que l'Occident parle de liberté, de droit de la personne, de démocratie, et que ces principes ne s'appliquent pas quand on parle de la Palestine. Il y a eu d'ailleurs, c'était très intéressant, une déclaration du général Petraeus, qui est quand même le commandant en chef des forces américaines en Afghanistan, qui disait « la non-solution du conflit palestinien met en danger nos soldats qui se battent en Irak et en Afghanistan ». C'est-à-dire créer une telle haine pour les États-Unis, pour l'Occident, etc., que ça mobilise, que ça perpétue les conflits, et encore une fois, tout le monde paye le prix. C'est pas seulement les Américains payent le prix, le peuple irakien paye le prix, les Israéliens payent aussi un prix. Donc c'est ça qu'il faut changer, et on peut sortir des conflits, on l'a vu, je veux dire, en Irlande, on peut espérer même le conflit de l'ETA, le conflit basque, il y a une perspective, etc. Je crois qu'il faut se battre avec l'idée qu'il y a des solutions possibles à ce conflit, mais il faut trouver quelles sont les bases de ces solutions. Et je pense réellement que les négociations actuelles, c'est-à-dire des négociations complètement inégales, avec un occupant et un occupé, dans lesquelles finalement la communauté internationale, c'est-à-dire les États-Unis et l'Union européenne, prennent position de fait, enfin laissent faire Israël. C'est-à-dire, quand on parle aujourd'hui, on nous dit « le problème c'est la colonisation ». Mais ça fait 40 ans que l'Union européenne et les États-Unis sont contre la colonisation. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme mesure concrète ? Qu'est-ce qu'ils ont pris comme mesure concrète contre la colonisation ? Aucune. Donc là, il y a vraiment quand même un deux poids, deux mesures. On peut sanctionner le Soudan, on peut sanctionner l'Iran, etc. Mais on ne sanctionne pas ce vol de territoire qui est en train d'être commis en Palestine.
En tout cas, si on veut comprendre ce qui se passe, ce qui se joue au Proche-Orient, un sujet encore une fois émotionnel, irrationnel, il faut quand même être capable de contextualiser un minimum les choses, et je crois que votre bouquin y contribue beaucoup. Au moins sur cette histoire de la colonisation, l'idéologie coloniale, il faut se souvenir que les adversaires de l'esclavage au début du 19e siècle étaient des partisans, de chauds partisans de la colonisation, qui disaient « nous allons libérer ces nègres et maintenant et nous allons aller chez eux, les civiliser, les aider, etc. » On voit que des idées qui nous semblent tout à fait scélérates aujourd'hui ont pu être... Ça, c'est quand même important d'avoir cette vision des choses. Une autre vision sur le sionisme qui n'a jamais été une évidence, mais tout simplement une théorie politique, une idéologie politique qui, à ce titre-là, mérite d'être discuté tout à fait librement. Enfin, c'est autant d'éléments qui peut-être, c'est ce que vous espérez, j'en suis sûr, permettent de regarder ce conflit avec un peu plus de sérénité.
Si je peux ajouter une chose qui est la conclusion du livre, qui est une utopie, mais qui en même temps indique, à mon avis, vers où aller. Je cite André Brink, qui est un grand poète, un écrivain sud-africain, blanc, qui a lutté contre l'apartheid, et qui raconte dans ses mémoires une anecdote qui m'a beaucoup frappé, parce qu'elle revient à dire « le seul vrai problème, c'est l'égalité ». Il dit, Brink raconte, j'ai un ami blanc sud-africain qui était, comme moi, opposé à l'apartheid, et après l'apartheid, il se crée des écoles multiraciales. Et donc, cet ami met son enfant, son petit garçon de 5 ans, dans cette école. Et au bout de quelques mois, il est très content parce que ce petit garçon, son meilleur copain, c'est un petit noir. Donc ça se passe très bien. Et puis un jour, le père du petit noir vient le chercher. Et le petit garçon blanc voit ça, il dit rien. Et le lendemain, on sent qu'il est... Il est ébranlé, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le lendemain, quand il va à l'école, il retourne à l'école, il court vers son petit camarade et il lui dit « Mais tu ne m'avais pas dit que ton papa était noir.
» Ok, merci.
C'était un entretien avec Alain Gresh. Son livre « De quoi la Palestine est-elle le nom ?» a été publié le 15 septembre dernier par les éditions Les Liens qui Libèrent. À la technique aujourd'hui, Nicolas Lapeyre et Yann Bouillot, réalisation Coy Nguyen et Franck Aderer, assisté d'Agnès Lebotte et Marina Touyez. Le numéro du répondeur de là-bas, si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37.
Allô, c'est Ariel Dombal. Voilà, j'ai joué à Joker Plus avec l'option plus ou moins 1 et je voudrais être sûre d'avoir gagné même à un numéro près. En plus, c'était le numéro d'à côté. Un seul numéro, ça change rien, vous êtes d'accord? Ah, je ne suis pas à la française des jeux? J'ai encore fait le numéro d'à côté, décidément.
Avec la nouvelle option plus ou moins 1, quand vous avez perdu à un numéro près, vous avez gagné Joker Plus. Mettez encore plus de chance de votre côté.
FDJ.
Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.
Allô, la française des jeux? Oui, c'est Ariel Dombal. Je vous ai appelé hier et avant-hier, oui, peut-être aussi. Voilà, j'ai joué à Joker Plus avec l'option plus ou moins 1 et je voudrais être sûre d'avoir gagné même à un numéro près. Bon, un seul petit numéro, en plus c'est celui d'à côté. Vous me confirmez? Ah, vous êtes adorable! Bon, on se rappelle!
Avec la nouvelle option plus ou moins 1, quand vous avez perdu à un numéro près, vous avez gagné Joker Plus. Mettez encore plus de chance de votre côté.
FDJ.
Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Avec le Grenelle Environnement, réduisons nos déchets. Entreprise de conscience avec Yolaine Delabigne.
Monsieur Van den Bosch, vous êtes le directeur industriel d'une entreprise qui fabrique des malaxeurs à béton dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous avez réussi à économiser cette année 24 tonnes d'acier. Comment y êtes-vous arrivé?
Nous avons utilisé des logiciels de dessin en trois dimensions, permettent de mieux dimensionner nos pièces.
Quelle est la véritable différence avec la manutention que vous aviez auparavant?
Nous n'utilisons plus de tôle avec des surlongueurs, ce qui permet d'économiser du temps de découpe et aussi de la matière. Avec le même effectif, on peut produire beaucoup plus en volume et on produit mieux en faisant moins de déchets.
Plus de témoignages sur réduisonsnosdéchets.fr.
Le ministère du Développement Durable et l'ADEME vous ont présenté Entreprise de Conscience. Grenelle Environnement, entrons dans le monde d'après.
Qu'est-ce qu'ils ont encore inventé à La Poste?
Le recommandé qui revient chez toi une deuxième fois.
Comment ça?
Un peu comme un pélican, si tu préfères.
Un pélican?
Oui, il vole jusque chez toi, flap, 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 avec ses grandes ailes. Mm. Et puis une fois arrivé, il sonne. Bon, t'es pas là. Bah, il repart. Mais si tu l'appelles au 3631, flap, 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 il revient, le pélican.
Au 3631?
Oui, flap, 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 le recommandé.
Si vous n'avez pas réceptionné votre recommandé au premier passage, appelez le 3631 avant 14h en semaine ou midi le samedi et La Poste vous le représentera gratuitement le lendemain. Numéro non surtaxé.
Et c'est pas tout!
La Poste, la confiance donne de l'avance.
Dans quelques minutes, Carrefour de l'Odéon, France Inter, il est 16h. Les informations avec Dominique Delaroy.
À Marseille, le garçon de 11 ans blessé vendredi soir dans une fusillade dans les quartiers nord n'était pas impliqué dans un quelconque trafic. C'est ce qu'indique le procureur de la République. Rien ne permet de dire pour l'instant qu'il ait eu un rôle de guetteur, comme on l'a dit. Il venait chez sa tante et n'habite pas dans le quartier. L'enfant qui a reçu 3 balles se trouve dans un état physique difficile et ne peut pas être entendu pour l'instant, selon le magistrat. Toujours à Marseille, un mineur de 16 ans a été mis en examen à écrou dans le cadre de l'enquête sur un double règlement de compte qui remonte au mois d'août dernier. Deux hommes avaient été criblés de balles dans le quartier de la Cayolle, réputé pour être l'un des plus sensibles du sud de la ville. Et contre cette multiplication des règlements de compte liés au trafic de drogue, Brice Hortefeux a annoncé hier soir des moyens supplémentaires, 150 hommes en plus. Les syndicats policiers s'en réjouissent, mais restent dubitatifs quant à l'efficacité de ces mesures ponctuelles. Oui, au renfort, mais pour combien de temps? Se demande-t-il. Le procès en appel des hormones de croissance, des peines de prison avec sursis ont été réclamées par le parquet général de Paris contre le scientifique et le médecin rejugé après la mort de 119 personnes victimes de cette hormone contaminée dans les années 80. 3 ans de prison avec sursis contre Fernand Drey, 88 ans, ex-responsable d'un laboratoire de l'Institut Pasteur qui fabriquait l'hormone, et 6 mois à 1 an de prison avec sursis contre Elisabeth Munier, médecin impliqué dans la collecte. La défense plaide la relaxe. Jean-Pierre Bemba, accusé d'avoir mené une campagne de viol et de torture avec ses miliciens en République démocratique du Congo, a plaidé non coupable au premier jour de son procès devant la Cour pénale internationale de La Haye. L'ancien vice-président de la RDC est inculpé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Jessica, la Française arrêtée à l'aéroport de São Paulo en possession de 9 kilos de cocaïne, va très bien. Le consul de France sur place lui a rendu visite dans la prison pour femmes où elle est incarcérée. Le père de Jessica pense qu'elle a été piégée par la promesse d'un voyage gratuit au Brésil. Selon le Quai d'Orsay, 14 Français sont actuellement détenus à São Paulo pour des affaires de drogue, mais il est prématuré, selon lui, d'établir un lien entre elles. Alberto Contador avait incriminé la viande de bœuf après un contrôle anormal l'été dernier pendant le Tour de France. Le coureur cycliste avait mis en cause une contamination alimentaire et donc incriminé la viande de bœuf mangée la veille et le jour du contrôle. Or, cette viande aurait été achetée à Irún, au Pays Basque espagnol. Du coup, l'association espagnole de producteurs de viande bovine veut en avoir cœur net. Elle va donc déposer plainte pour vérifier la véracité du Velos Contador.
Mercredi à partir de 15h, France Inter vous invite à l'enregistrement d'un jeu des 1000 euros exceptionnel. Nicolas Stoufflet ?
Alors une question bleue pour commencer. Où va s'effectuer cet enregistrement ?
Au studio 106 de la Maison de la Radio.
Oui, exceptionnellement à Paris, en public dans les studios de la Maison de Radio France. Qui seront les candidats qui joueront à ce jeu des 1000 euros exceptionnel qui sera diffusé pour les fêtes de fin d'année ?
Facile, les journalistes et les animateurs de France Inter.
Et leurs gains seront reversés au profit d'Haïti.
C'est bien cela, ils seront là et ils répondront à mes questions. Mathieu Vidard, Fabienne Chauvière, Denis Chesson.
Pour assister à l'enregistrement de ce jeu des 1000 euros exceptionnel mercredi à partir de 15h, inscrivez-vous en vous connectant sur dicojeuxdes1000euros@radiofrance.com ou réservez vos places en appelant le 01 45 25 10 45.
France Inter et le Théâtre de la Bastille présentent du 30 novembre au 22 décembre Baal de Bertolt Brecht, mise en scène par François Orsoni avec Clotilde M dans le rôle titre. Sauvage et débridé, Baal raconte la vie d'un poète jouisseur qui s'adonne sans scrupule à tous les excès. Retrouvez Baal dans les émissions de France Inter.
France Inter. France Inter.
La différence.
Il est 16h04, passé de 30 secondes. On retrouve le Carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Dominique.
Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous. Avant d'évoquer le 300e anniversaire de la naissance du fils aîné de Jean-Sébastien Bach, Wilhelm Friedman, un mot ému en ce qui concerne le décès de Mildred Clary, grande musicologue, grande dame tout court, qui a disparu jeudi dernier. Elle avait joué du luth, elle a commencé une carrière de concertiste, elle a ensuite fait de la radio et de la télévision. Elle a produit un nombre incalculable d'émissions pour France Culture, France Musique, sur les musiciens de l'Inde, du Japon, les musiciens du XXe siècle, les chefs d'orchestre, les grands interprètes, etc., etc. Mildred a été la productrice de l'ultime traversée, 365 émissions en 91 pour célébrer l'année Mozart et tant d'autres choses, la leçon de musique pour TF1, Opus pour la chaîne Arte. Elle a été récompensée par le Grand Prix de la radio de la Société des gens de lettres en 88. Elle a été généreuse, pleine de charme et rayonnante et voilà, on l'aimait beaucoup. Mildred Clary, alors pour les proches, ceux qui l'ont écoutée, ceux qui l'ont connue, ses obsèques auront lieu mercredi, le 24 novembre, à 13h20, au cimetière du Père-Lachaise, au crématorium, donc, au Père-Lachaise, salle Landowski, et c'est 71 rue Rondeau. C'est grand, le Père-Lachaise, bien sûr, mais c'est dans le 20e arrondissement de Paris, donc mercredi, à 13h20, au crématorium du Père-Lachaise. Merci de transmettre à ceux qui connaissaient Mildred Clary. Elle a aussi écrit un livre qui est vraiment tout à fait recommandable sur Mozart. Mozart, simplement, La lumière de Dieu, et c'est un livre qui résume la vie, mais aussi qui parle des œuvres, qui parle de l'esprit de Mozart. C'est publié chez Pygmalion, donc tout à fait de circonstance. Si on veut faire un joli cadeau pour Noël, par exemple, je sais pas j'espère qu'il est toujours disponible et qu'il a été réédité, en tout cas. Et pour Mildred Clary, voici une symphonie de jeunesse de Mozart, écrite à l'âge de 14 ou 15 ans, à Milan, très probablement. C'est la 46e des symphonies de jeunesse en ut majeur, Allegro Molto.
Thank you.
Allegro molto de la 46e symphonie de jeunesse de Mozart, interprétée par l'Académie en Sainte-Martine in the Fields, dirigée par Sir Neville Mariner. Et voici l'autre sujet, après ce coup de chapeau à Mildred Clary, récemment disparue, je le rappelle, si vous arrivez maintenant devant votre poste, vous l'avez ouvert en voiture. Voici Wilhelm Friedemann Bach, Bach voudrait...